Bonjour Père et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir Jérôme, merci pour le générique, en effet, ambiance vacances. Alors ce soir, je ne veux pas vous donner. Jérôme a essayé de connaître le thème avant pour pouvoir l'annoncer, mais j'ai refusé de le donner parce qu'il y a un aspect un peu de suspense, et à faire que vous arriviez à découvrir de quoi veut parler le Père Faber ce soir. Et puis je tiens à remercier l'auditrice qui a envoyé un SMS juste avant le début en disant je m'attends au pire avec le Père Faber. Elle se reconnaîtra. Alors nous allons parler de Myriam ce soir. Voici Myriam qui a tâché depuis un certain temps d'éviter le péché, le mal, et de se rapprocher de Dieu. Elle a pris goût à la prière, elle a pris goût à la liturgie, et particulièrement à la prière devant le Saint-Sacrement, devant le Seigneur Jésus présent dans le mystère du Saint-Sacrement. Elle sent petit à petit une certaine paix remplacer doucement des troubles et des agitations dans son cœur. Il y a une nouvelle lumière qui se répand abondamment dans sa conscience. Alors, peut-être vous souvenez-vous ce mot conscience, ce mot retravaillé, reforgé par Saint John Newman pour parler de ce qui en nous est en contact avec Dieu, ce qui en nous est capable de prier. En fait, nous prions avec notre conscience, pour John Newman. Et très intéressant aussi, pour lui, celui qui prêche doit prêcher avec sa conscience. Il ne doit pas prêcher avec son cerveau, surtout, sinon ce n'est pas intéressant du tout. Il doit prêcher avec sa conscience. Alors nous, on dirait peut-être prêcher avec ses tripes, prêcher avec son cœur. Mais l'expression de Saint Newman est beaucoup plus précise, beaucoup plus percutante, si on veut. La conscience, c'est à la fois le contact avec notre Créateur et c'est en même temps le lieu de la lumière, le lieu où la lumière peut jaillir, particulièrement de la prière et de la contemplation. Donc là, Myriam, voilà une nouvelle lumière qui se répand dans sa conscience. Et pourtant, cette lumière ne l'accable pas, elle ne la met pas mal à l'aise. Elle voit sans découragement les grandes hauteurs de la vertu qui autrefois étaient cachées pour elle dans les nuages, les hauteurs de la sainteté, et maintenant elle espère pouvoir atteindre un jour ces hauteurs avec la grâce de Dieu. Il y a comme une modeste et humble assurance qui lui dit qu'un jour, elle se tiendra debout sur ses hauteurs en compagnie de son cher Seigneur et Maître. Chaque jour, elle sent un peu plus que Dieu l'aime, et avec ce sentiment, cette forme de sentiment de l'amour de Dieu sur elle, en elle se développe tout ce qui est surnaturel et tout ce qui est divin. Mais il y a un nouveau souci qui apparaît chez elle. Et au début, ce n'est qu'un tout petit point, un petit peu comme le nuage du prophète qui apparaît en haut du Carmel et qui annonce la pluie un jour. Cette impression se développe en elle. Myriam vient à sentir une sorte d'intimité avec Dieu, différente de tout ce qu'elle a connu jusqu'alors. Il y a un nouveau genre de bonté qui prend forme dans ses idées, dans ses pensées. Une espèce de mouvement tranquille vient en elle, mais elle cherche quelque chose, tout en demeurant dans une paix profonde. Elle élève son regard vers Dieu pour le chercher, mais voilà qu'elle a l'impression que quelque chose la ramène vers la terre. C'est comme si on lui disait, ne va pas chercher Dieu dans le ciel, c'est ici même que tu dois descendre en toi. Le Saint-Esprit lui a donné le besoin d'une vie surnaturelle, comme une nouvelle vocation, le besoin d'une union plus étroite avec Dieu, d'une union d'une autre sorte qui ne se trouve qu'à l'intérieur de soi-même. Poussée par ce mouvement, elle décide de s'adresser à son confesseur ordinaire. Non pas un confesseur occasionnel, comme ceux qu'on trouve dans les cités de pèlerinage, comme ici à Ars, ou bien qu'on trouve à Lourdes ou dans les grands endroits où la confession, le sacrement de la pénitence est assuré toute la journée. Non, son confesseur qu'elle a choisi, un entre 10 000, et auquel elle a commencé à vraiment se confier. Alors elle lui dit qu'elle a soif de Dieu, et elle lui demande d'être conduite aux sources d'eau vive des saintes demeures de Dieu. Malheur à ce confesseur s'il est incapable de lui montrer ses sources de vie éternelle, malheur à lui s'il les ignore lui-même, malheur à lui s'il ne fréquente pas assidûment cet endroit où la source existe et où elle peut couler. Tel n'est pas le cas, et naturellement, elle va rendre compte à celui qu'elle a choisi comme guide de tout ce qui s'est passé en elle et de ce qui se passe encore en elle. Alors peut-être pas tout, puisque il ne s'agit pas de tout dire, en tout cas pas tout d'un coup, et il y a toujours des éléments qui peuvent rester dans le secret entre le Seigneur et moi-même. Elle a décidé de lui dire les fautes de sa vie, ce qu'elle a reconnu comme étant les tendances mauvaises et désordonnées de son cœur, autant qu'elle les connaît. Mais confesseur et pénitent se trouvent dans un état d'esprit différent. Le pénitent est encore tout vibrant du contact avec Dieu, il est tout entier dans la présence de Dieu, dans ce qu'il est en train de vivre. Mais le guide doit voir plus loin. Sa vue doit s'étendre bien au-delà de cette première chaîne de montagne que fréquente actuellement sa pénitente. Il voit les portes du désert, il voit les immenses plaines de sable qu'il faudra certainement un jour traverser. Il voit les dangers, les illusions, les défaillances, les incertitudes, les épreuves, les tentations. Telle est la perspective que lui connaît et que elle ne connaît pas encore. Mais il doit être rempli d'empathie, de compassion et de sainte amitié surnaturelle. Il regarde avec beaucoup de respect cette personne touchée par l'amour de Dieu, avec respect comme on respecte le Seigneur présent dans le Saint-Sacrement. Il y a cet apostolat qui est le plus grand, celui qui s'occupe de ces choses de la vie surnaturelle. Volontiers, s'il le pouvait, ce confesseur se prosternerait devant celle sur qui le doigt de Dieu est posé et se pose encore. Lui, il discerne les conséquences pour toute la vie de ce choix qu'elle a fait de suivre le Seigneur Jésus. Et pourtant, son affection surnaturelle est inquiète parce qu'il a bien des choses à réclamer à cette disciple qui lui demande d'être son guide. Il doit obtenir d'elle la générosité. C'est la première chose indispensable. Il doit obtenir l'humilité, même si pour le moment, il doit être très patient, pas trop exigeant sur cet élément, sur l'humilité, qui viendra plus tard. Il faut qu'il y ait assez d'humilité pour qu'il y ait cette forme particulière de docilité qui appartient à l'accompagnement spirituel. Il faut cette docilité, mais une docilité toujours subordonnée à l'obéissance au Saint-Esprit, à l'obéissance à Dieu. Le confesseur sait que ce sont les progrès dans la connaissance de Dieu qui vont amener le reste. Ces deux points la générosité et l'humilité sont beaucoup, beaucoup demandées. Et pourtant, il y a encore d'autres choses qu'il faut demander à Myriam. De quoi notre confesseur peut-il se dispenser? Qu'est-ce qu'il peut pour l'instant passer sous silence pour ne pas effrayer ou surcharger Myriam qui est en train de découvrir les splendeurs de la vie spirituelle? Il doit chercher à ne pas surcharger, à ne pas étouffer la grâce. La générosité et l'humilité sont des choses très très grandes, et c'est pourquoi il faut trouver un instrument plus terre à terre. Il faut trouver un instrument qui permette de descendre dans les menus détails. Un instrument qui ne va pas encombrer, qui ne va pas demander toutes les forces de celle qui est en train d'avancer et d'avancer paisiblement sur le chemin de l'union et de la communion avec Dieu. C'est là où pour nous, le suspense, si suspense il y a pour vous, atteint son maximum. On va découvrir la réponse personnelle du Père Faber à cette question. Quel va être cet instrument? Le confesseur choisit ce que sa disciple n'attendait pas, ce qu'elle croit à peine possible de choisir. Il veut lui inspirer un goût pour la lecture. Instrument tout simple, instrument terre à terre. Pour commencer les grandes œuvres, il va se proposer cette réalité toute simple, le goût de la lecture. Préoccupé de l'avenir, de toutes les difficultés qu'il prévoit pour sa disciple, le confesseur semble exagéré dans ce désir de procurer le goût de la lecture. Il dit à tous ceux qui veulent l'entendre que c'est un point important. Qu'on soit dans les murs d'un cloître, qu'on soit en dehors du cloître, c'est important. Mais pour ceux qui vivent dans le monde, ceux qui n'ont pas de règles, de clôtures, de supérieurs religieux, le confesseur va dire que ce goût de la lecture est en règle générale, il y aura toujours des exceptions, et peut-être vous souvenez-vous que la grande règle dans l'accompagnement spirituel, c'est qu'il n'y a pas de règle. La grande règle, c'est que l'Esprit Saint est souverainement libre et que jamais on ne doit l'enfermer. Mais néanmoins, il y a des constantes, de très grandes constantes qu'il faut connaître et qu'il ne faut pas s'amuser à mépriser en disant « tout est nouveau, tout a changé, on doit faire du neuf ». Ce serait désastreux de penser que dans le domaine des relations entre la conscience, comme le dit Saint Newman, et le Créateur, que dans ce domaine-là, tout puisse changer du jour au lendemain, simplement parce que la société évolue ou parce que Internet est apparu. Non, il y a des constantes dans le mystère de la communion avec Dieu, dans le mystère du chemin pour parvenir à la communion avec Dieu. Néanmoins, il y a des exceptions et nous essaierons, si nous avons le temps ce soir, de voir quelles exceptions peuvent exister. Donc, en règle générale, le goût de la lecture est indispensable pour parvenir à la sainteté. Et sans cela, notre confesseur dit « Je ne peux pas me charger de la réussite de votre chemin vers la sainteté. » Donc il se fait un petit peu ferme, un petit peu clair, un petit peu tenace aussi au sujet de ce goût pour la lecture. Alors que pouvons-nous objecter au père Faber? Tout simplement qu'il est en train de prêcher pour sa propre boutique. Lui, une bonne partie de son temps, pas tout son temps quand même, il l'a consacré à lire les auteurs spirituels et après à écrire de gros livres spirituels. J'ai découvert samedi à quoi ressemblaient les éditions anglaises des œuvres du père Faber, les premières éditions, celles qui sont sorties, peut-être même quand il était encore vivant, et celles qui après ont été imprimées, à la différence des éditions françaises où on a essayé de couper les livres en deux volumes, l'édition en langue originale, en anglais, ce sont vraiment des gros pavés. Rien que de le voir, on se dit, mais jamais on pourra lire ce truc-là jusqu'au bout, tellement c'est gros comme un bottin téléphonique, pratiquement. Eh bien, c'était la vie du père Faber, et on se dit, il est en train, tout simplement, de dire, ce que j'ai fait, forcément, a du sens, a de l'intérêt, donc il faut convaincre tout le monde, peut-être pas de lire mes livres, mais de lire des livres de spiritualité, et de diffuser des livres de spiritualité. Ce serait vraiment pas très gentil pour le pauvre père Faber de penser qu'il est aussi rempli de vanité et de fatuité. Non, cette conviction, il vient la chercher dans toute la tradition spirituelle, dans finalement toute la tradition de ce qu'on appelle la Lectio Divina. Alors, sûr d'être fondé sur une tradition solide, il va continuer à essayer de nous convaincre de cette importance de ce qu'il appelle le goût pour la lecture sainte, bien sûr. Retrouvons Myriam. Et le père Faber nous dit, ceux qui sont au début de la vie spirituelle doivent croire beaucoup de choses sur parole. Donc là, ils doivent croire sur parole que ce goût de la lecture est tellement important. Longtemps avant d'être des parfaits, ils verront que de tous côtés, il y a des profondeurs et des difficultés inscrutables. Et il va leur falloir faire confiance à ceux qui ont déjà parcouru le chemin. L'habitude de croire quelqu'un, alors d'abord de croire en Dieu bien sûr, mais aussi de croire quelqu'un, doit devenir plus forte que celle de s'appuyer sur ses propres connaissances. Dans le domaine de la spiritualité, c'est vraiment essentiel et archi-essentiel. Quand on a encore à apprendre une leçon aussi essentielle et indispensable dans le domaine de la spiritualité que l'obscurité, les ténèbres sont plus claires et plus pures que les lumières, eh bien on a encore beaucoup d'autres choses étranges et déconcertantes à apprendre. Et on ne doit absolument s'étonner de rien lorsque ce qui nous semblait évident, conforme au bon sens, est remis en cause par les guides spirituels et les auteurs spirituels. Tout simplement remis en cause par le Seigneur Jésus dans la lettre et l'esprit de son évangile. Celui qui est dans le commencement de son aventure de sainteté, doit se tenir pour dit, que son maître connaît bien son affaire. Et il connaît bien son affaire quand il insiste sur les habitudes de lecture. Voilà, l'expression devient encore plus nette, à la limite plus belle et plus forte que le goût pour la lecture. Il s'agit des habitudes de lecture. C'est-à-dire à la fois l'habitude de lire, les habitudes de lire telle ou telle chose. Et c'est cela qui doit s'établir comme un instrument facile, un instrument, encore une fois, terre à terre, pour avancer vers la confiance, vers l'humilité et vers davantage de générosité, mais aussi pour la persévérance. Les habitudes de lecture. On nous parle d'un certain père abbé du temps du Moyen-Âge dont un des soins principaux était que tous ses religieux aient des livres saints, des livres spirituels en abondance, même si à son époque les livres étaient rares et chers. Ce saint père abbé insistait sans cesse sur le devoir de la lecture. Il allait jusqu'à dire que les livres spirituels sont comme des armes en temps de guerre, comme une occupation en temps de paix, un soutien à l'heure de l'épreuve, un remède dans la maladie. Comment pouvoir contrer une telle affirmation, tellement elle est vraie et tellement l'expérience, et l'expérience des siècles et des siècles, vient confirmer cette approche de la centralité de la lecture comme moyen quotidien pour à la fois combattre le mal et grandir dans le bien, pour à la fois être consolé et être guéri. Toute chose égale, quelqu'un qui commence sa vie spirituelle avec du goût pour la lecture a plus de chances que quelqu'un qui n'a aucun goût pour la lecture d'avancer et de persévérer. Alors, il s'agit de ceux qui peuvent lire. On parle de ceux qui ont appris à lire et pour lesquels lire n'est pas quelque chose de pénible et de douloureux, et ceux qui ont à disposition des livres. Pour les autres, nous savons bien que le Seigneur Tout-Puissant s'occupe de ses enfants et leur permet de se passer des choses ordinaires, de celles qu'il a pourtant utilisées lui-même, puisque rien ne pourra jamais changer le fait que la Bible soit un livre. C'est une collection de livres, mais la Bible, l'Évangile sont des livres, sont des réalités matérielles que nous appelons aujourd'hui des livres parce qu'elles ont ce format-là du livre, qui sont tout le temps silencieux, tout le temps paisibles, qui ne nécessitent aucune dépense d'énergie électrique ou d'énergie quelconque, qui sont facilement à disposition et qui sont là, présents dans la liturgie comme dans la vie quotidienne du croyant, pour donner un accès privilégié à la révélation de Dieu et du Seigneur Jésus. Les livres sont là, et le goût pour la lecture, lorsqu'il est possible, doit être développé, lorsqu'il est matériellement possible. Il y a aussi la maladie ou la fatigue qui peuvent empêcher de lire, et à ce moment-là, le Seigneur utilise d'autres moyens, nous le savons bien. Une personne qui commence sa vie spirituelle avec du goût pour la lecture a plus de chances d'avancer et de persévérer que celle qui commence sans aucun goût pour la lecture. L'expérience concrète ne cesse de nous montrer que ce goût pour la lecture est finalement une grâce. Évidemment, le père Faber ne connaissait pas Radio Maria France. Sinon, il aurait dit que ça valait tout autant d'écouter les meilleures émissions ou toutes les émissions de Radio Maria France. Mais on ne peut pas lui imputer ce péché-là puisque la TSF n'existait pas encore. Toute plaisanterie mise à part, la question se pose, est-ce qu'on est dans une équivalence avec ce que j'ai dit il y a quelques minutes sur le silence, l'absence de consommation électrique? Évidemment, le livre est différent de l'émission radio diffusée, et le livre est plus apaisé, plus calme que le fait d'écouter, même si écouter lorsqu'on est fatigué est vraiment un moyen de remplacer le livre, remplacer la lecture. Le tout étant la disposition profonde du cœur, c'est ce que va nous expliquer le père Faber maintenant, qui est l'humilité. Il va essayer de nous démontrer, non seulement qu'il faut lire avec humilité, non pas pour s'enorgueillir, non pas pour s'enrichir et vouloir ensuite prétendre être le plus savant du monde, mais il nous affirme que lire est un acte d'humilité, que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'humilité. Alors comment fait-il ? Eh bien, il suppose cette objection, qu'on lui dise « mais moi je n'ai pas besoin de lire, il suffit que je pense à Dieu. Je préfère penser plutôt que lire. » Si ce n'est pas adorer, puisque lorsqu'on adore, on essaye d'avoir le moins de pensées claires et distinctes possibles pour se laisser envahir par la lumière de Dieu, et que la recherche des pensées, la recherche des raisonnements est un obstacle au don de la lumière divine, si ce n'est pas donc l'adoration ou la contemplation ou l'oraison, eh bien, penser, ce serait un peu méditer. Donc il y a cette objection, je préfère penser plutôt que lire. Eh bien, voilà la réponse, encore une fois, un peu déconcertante de notre cher père Faber. Ce qu'il y a de plus difficile au monde, c'est de penser, c'est-à-dire de produire des pensées réelles. La pierre de touche d'un bon système d'éducation, c'est qu'il produit le pouvoir de penser. Il faut donc une grande réussite d'éducation pour arriver à posséder le pouvoir de penser. Si nous sommes observateurs, nous allons être frappés de remarquer que chez ceux qui autour de nous se sont faits eux-mêmes, les fameux self-made men, ceux qui se sont fabriqués eux-mêmes, il y a beaucoup plus d'habileté que de pensée réelle. Ils ne se sont pas faits par la pensée, ils se sont très très souvent faits eux-mêmes par l'habileté, cette habileté des gens de ce monde dont parle le Seigneur Jésus. Penser réellement, arriver à recevoir le réel dans son intelligence et ensuite à s'approprier le réel est vraiment une activité extrêmement élevée et finalement assez rare. Eh bien, ce pouvoir de penser, lorsqu'il a été développé, lorsqu'il y a une grande réussite dans l'éducation et qu'il est là, ce pouvoir de penser est en effet une facilité immense pour la vie spirituelle. Mais il n'y a certainement pas beaucoup d'audace à affirmer que ce pouvoir de penser n'appartient pas à tous. Il est assez souvent le résultat d'une excellente éducation qui est un grand soutien pour toute la vie de l'Église. Le père Faber a été un éducateur et il appartient à l'oratoire qui s'est occupé d'éducation. Donc il est très très convaincu qu'offrir la meilleure éducation possible, c'est un des moyens, un des instruments matériels d'une certaine façon pour soutenir la vie de l'Église, pour soutenir la vie surnaturelle de l'Église. Eh bien, juste après, dans la hiérarchie des valeurs, juste après le pouvoir de penser, nous comprenons qu'il est vraiment possible de l'obtenir, mais de haute lutte, juste après ce pouvoir de penser, nous pouvons placer le pouvoir de lire. Eh bien, ce pouvoir de lire est une des conditions les plus importantes pour la vie spirituelle dans l'Église. Bien au-dessus, bien sûr, il y a la grâce, le don de la grâce, il y a tous les secours du Saint-Esprit, mais ce pouvoir de lire, c'est ce qui vient juste après le pouvoir de penser. Et se mettre à lire, c'est reconnaître humblement que nous n'avons très certainement pas ce pouvoir de penser. Et puisque nous n'avons pas ce pouvoir de penser Dieu, de penser l'être avec nos propres forces, eh bien, nous allons lire pour compenser cette absence de pouvoir de penser. Et en nous mettant à lire, nous disons, je ne suis qu'un pauvre petit dans l'Église et j'ai besoin d'entendre ce que tous mes prédécesseurs, ou en tout cas les plus saints de mes prédécesseurs, ont pu comprendre et penser sur l'Évangile en méditant intensément l'Évangile avec le secours du Saint-Esprit et avec les ressources de leur propre culture et de leur propre pouvoir de penser. Mais moi, humblement, je vais simplement chercher quelques maîtres, ceux que me recommande l'Église et sa longue tradition, chercher quelques maîtres qui vont pouvoir m'expliquer, qui vont pouvoir m'annoncer l'Évangile à leur manière, qui vont pouvoir me prêcher. Ce pouvoir de lire, nous pouvons l'appeler le goût de la lecture ou les habitudes de lecture. Eh bien, c'est un secours immense pour le chemin spirituel. La formation de ce goût de lire va donc être, après la formation du pouvoir de penser, le meilleur moyen d'évaluer un système d'éducation. Éducation de toute la personne, donc aussi éducation spirituelle. Le goût pour la lecture est beaucoup plus à la portée de tous que la puissance de penser. Ceux dont l'éducation n'a pas été très réussie ou très approfondie, bien souvent sans faute de leur part, parfois avec faute de leur part, ceux dont l'imagination n'a pas été transformée par l'éducation qu'ils ont reçue ou qu'ils se sont donnée, ceux-là vont avoir plus de peine que d'autres à se mettre au pouvoir de lire. Je redis qu'il y a toujours un livre et un auteur qui sont adaptés à ce que nous sommes aujourd'hui et à ce dont nous avons besoin. Et il n'y a pas une difficulté insurmontable à mettre en œuvre ce goût pour la lecture. Il y a des choses bien plus effrayantes que de chercher un bon livre dans le chemin de la perfection. C'est une affaire de temps avant tout. Et le succès de la lecture, que nous sommes aussi tous à même de pouvoir expérimenter, va compenser abondamment les quelques efforts que nous aurions pu faire pour trouver le livre, là en nous faisant aider, en étant guidés, et ensuite pour persévérer dans la lecture. C'est un point important, là aussi, se faire aider est certainement essentiel. Il y a des livres qu'il faut continuer à lire, même si on a l'impression qu'ils ne nous apportent pas assez, ça pourrait finir par venir. Et il y en a d'autres, si au bout de 10 pages, il n'y a toujours rien, il n'y a toujours pas d'intérêt, il est certainement très sage de les refermer, de se dire ce sera pour plus tard, ou bien de se dire ben, j'ai peut-être plutôt bon goût en considérant qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce livre que j'ai peut-être choisi par moi-même sans me faire aider, sans me faire accompagner. Il y a bien plus effrayant et bien plus compliqué dans le chemin de la perfection que de chercher un livre et de le lire. C'est vrai que c'est quand même audacieux de dire « je ne peux pas lire » ou « il est impossible pour moi de trouver un livre aujourd'hui à 100 km à la ronde autour de moi ». Commencer le chemin spirituel sans ce goût de la lecture, soit naturel, soit acquis à la force du poignet, mais aussi avec la grâce de Dieu, c'est s'exposer à multiplier les difficultés ordinaires dans la vie spirituelle. Et le père Faber nous dit, parce qu'il sent qu'il peut y avoir des réticences, « Je vais vous faire voir, avec quelques exemples, quelques notations, qu'il n'y a là aucune exagération de ma part. » Il veut vraiment nous convaincre, non, je n'exagère pas en donnant une telle place à l'habitude de lecture, au moins dans les débuts de la vie spirituelle. Premièrement, la simple connaissance que nous obtenons par la lecture des livres spirituels, ou simplement les livres édifiants, on ne va pas chercher à lire les grands mystiques tout de suite, est d'une importance incalculable, la connaissance. Moi, je me souviens d'un père spirituel très âgé qui disait « finalement, la vie chrétienne est une connaissance ». Si on veut chercher à dire, sans utiliser le mot « gnose » qui aujourd'hui est très très abîmé et qui veut dire « connaissance », la vie chrétienne est une connaissance, mais au sens biblique, une connaissance qui est toujours en même temps amour et union et communion. Mais ce que le Seigneur Jésus nous apporte pour nous donner sa vie, c'est une connaissance du Père. C'est une connaissance de l'amour du Père, c'est une vraie connaissance expérimentale et transformante et béatifiante et divinisante du Père lui-même, du Père infiniment bon, du Père éternel. Et cette connaissance, elle peut prendre le chemin tout simple de la lecture, avant tout les évangiles, bien sûr, les évangiles, le Nouveau Testament et toute la Bible, mais aussi de tous ceux qui nous commentent l'évangile de quelque manière que ce soit, et avec beaucoup de sainteté et beaucoup de lumière du Saint-Esprit. La connaissance nous arrive aussi par la lecture. Mais attention, nous ne parlons pas d'érudition, nous ne parlons pas de connaissance encyclopédique. Il s'agit d'une connaissance réelle, une connaissance concrète, une connaissance expérimentale, parce qu'il s'agit de connaître la personne même de Dieu. Il n'est pas question d'érudition là, et il n'est pas si grave que ça de ne jamais arriver à se souvenir de ce qu'on a lu dans les livres de spiritualité. L'essentiel, c'est que ça nous ait rendu meilleurs et plus proches de Dieu. Bien sûr, on nous dit souvent que les personnes savantes, ou cultivées si on veut, ou instruites, sont les plus difficiles à convertir, les plus difficiles à convertir à la perfection. Parce que la science peut les absorber, elle peut empêcher la contemplation, empêcher la prière simple et douce, parce que l'étude peut détruire la fraîcheur de l'esprit, l'étude peut dessécher les affections du cœur, comme le vent d'Est peut dévorer des choses. Mais connaissance et érudition sont deux choses totalement différentes. Et étude et lecture amoureuse et édifiante de la parole de Dieu seront toujours deux choses complètement édifiantes. D'où l'importance, et c'est là-dessus que nous pouvons terminer, d'où l'importance de l'humilité du Seigneur Jésus qui vient dans notre cœur pour nous aider à lire comme le Seigneur Jésus a lu. Tout se résume là. Le Seigneur Jésus a vraiment lu. Ce que nous lisons de l'épisode dans la synagogue de Capharnaüm est la preuve irréfutable que le Seigneur Jésus connaissait les rouleaux de la Torah, connaissait les rouleaux des prophètes, connaissait les psaumes, il les avait lus, il les avait étudiés. Et il faut arriver à nous figurer avec quelle humilité parfaite, divine, le Seigneur Jésus a voulu lui-même, le Verbe éternel, lumière née de la lumière, a voulu lire les paroles de l'Écriture. Et c'est dans cette attitude d'humilité que lire peut parvenir à nous conduire sur le chemin de la sainteté.
Eh bien, cher Père, merci infiniment.
C'est la technique. Avec un livre, il n'y a pas de problème de réseau, il n'y a pas de problème de trucs comme de coupure de réseau.
Tout à fait. On peut juste faire tomber le livre, mais alors il est temps de se coucher.
Eh bien, il est temps de se coucher, c'est tout ce que je vous souhaite. Bonne soirée à tous.
Merci Père, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.